Le message ce matin sera apporté par Raymond Glore, que j'invite à venir. Je vais prier pour toi et pour nous. Dieu notre Père, nous te remercions pour notre frère Raymond Glore qui nous apportera ta parole ce matin. Seigneur, merci de l'inspirer, merci parce que tu l'as déjà inspiré, donne-lui la sagesse, la paix et l'autorité que tu lui confères. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Sois avec lui et avec nous, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, c'est beaucoup d'instruments à manier. Heureusement qu'on a de l'aide ici en bas et puis en haut. Alors, oui, c'est un privilège de se trouver ici devant vous, puis c'est une lourde responsabilité, comme toujours, lorsqu'il faut apporter la parole de Dieu. Permettez-moi de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Raymond Glore. J'ai 3 enfants qui sont mariés. L'un de nos enfants nous dit un jour, on peut chanter le loup qui fait mal. Le loup qui fait mal, de quel chant est-ce qu'il s'agit? C'est un des chants qu'on a chanté tout à l'heure, ce qui est lourd, qui me fait mal. Voilà, il s'agissait de décoder le loup qui fait mal. Alors, 3 enfants, 3 petits-enfants aussi, et puis mon épouse qui est magnifique, qui est là derrière. Au point de vue du travail, je fais un apprentissage maintenant. J'ai arrêté mon travail récemment, où j'ai travaillé pendant près de 24 ans à la Ligue. Et puis voilà, maintenant, eh bien, c'est le temps d'apprendre la retraite. Alors, ça fait 2 mois que je suis en apprentissage dans ce nouveau périple qui est la retraite. Et c'est très intéressant. Il y a plusieurs années de cela, j'étais encore jeune, je n'avais pas de barbe, je n'avais pas de cheveux blancs, je n'étais pas marié. J'avais fait la connaissance d'un ami qui faisait l'Institut Emmaüs. Moi, j'étais à l'Uni, mais on avait fait connaissance. Et puis, c'est le temps où Emmaüs a déménagé de Vennes à Saint-Légier. Et lors de l'inauguration, mon ami, qui est encore mon ami, avait eu la visite de son père qui venait du nord de la France. Et s'était exclamé devant la beauté du paysage, enfin c'était magnifique. Et mon ami me l'avait rapporté. Et puis un peu naïvement et un peu stupidement aussi, il faut dire, je lui avais dit, ouais mais c'est vrai que c'est beau, mais on ne mange pas le paysage. Il m'avait répondu, écoute, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai que moi, j'ai grandi à Pouilly. Le lac, je l'ai vu toute mon enfance, toute ma jeunesse. Ben voilà, je ne me suis pas nourri du lac. Et puis, c'était assez habituel, finalement. Et il y a quelque chose que je ne pouvais pas comprendre sur le moment. Et je pense que, pour nous, il y a parfois ce danger aussi, lorsque nous entendons la parole, certains la connaissent depuis qu'ils sont bébés, puis peut-être même avant. Et puis, on a la question de l'habitude. Puis on ne se rend plus compte, finalement, des trésors qu'on a dans la parole de Dieu. Alors voilà, je vous raconte ceci en espérant que le Seigneur, et je vais prier pour ça aussi, nous donne, au fond, peut-être une vision, je ne veux pas dire forcément une nouvelle ce matin, mais en tout cas, qu'il réveille nos intérêts, notre intérêt pour la parole de Dieu. Bien Seigneur, en étant ici devant, je te demande qu'en effet tu ouvres nos pensées, Seigneur, tu ouvres notre esprit aux richesses de ta parole, que tu nous donnes d'y entrer quelque peu. Seigneur, nous avons besoin que ce soit toi qui le fasses par ton esprit et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va utiliser cet appareil. Éphésiens 3, oh là là, il faut d'abord l'allumer. Voilà, je pense que ça va aller, oui. Priez avec l'apôtre Paul. Le titre de cette prédication, Je l'ai découvert en fait dans le dépliant qui nous avait été remis à chacun. J'étais assez soulagé de voir ce titre, parce que si on m'avait demandé au moment où le papillon était réalisé, je dois dire que je n'aurais pas très bien su quel titre il fallait mettre, parce que le passage que nous allons examiner ce matin est très riche. À la réflexion, en fait, on aurait pu l'appeler le Notre Père de Paul. Car Paul suit là-dedans un schéma, le schéma général du Notre Père. Invocation à Dieu, demande, et puis louange et adoration. Et cela, j'ai essayé de le signaler dans les titres des diapos que nous verrons au fur et à mesure. Alors, nous allons lire le texte. Est-ce que j'ose demander à une dame, que ce ne soit pas que des messieurs qui parlent, de lire au minimum cette première partie de texte? Est-ce qu'une dame a la gentillesse? Alors, quelqu'un qui est sans lunettes ou qui n'a pas besoin de lunettes? Alors, vas-y, Claire Lise, avec tes lunettes.
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui... C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille tient son nom dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous avez enraciné et fondé dans l'amour. Les yeux des capables de comprendre avec tous les soins quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur. Oh, ça fait réfléchir.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut terminer la lecture? Bonne année, Venka.
Il y a des étrangers par là. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse de toute la toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, ou imaginons. À lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Amen.
Merci beaucoup. Voilà, les crochets, ce sont des petites rajouts dans le texte, un peu pour l'expliciter. Suite au texte lu dimanche dernier, qui était dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, et que Marc Luthi a commandé, eh bien, aujourd'hui, nous continuons sur la même lancée. Cette lancée de Paul qui est pleine de superlatifs. Et les termes de puissance, de gloire, de force, reviennent constamment sous sa plume. Sans parler absolument de joie, comme dans les Philippiens, cette épître est pourtant pleine d'accents de jubilation. Et dans son enthousiasme, Paul s'interrompt parfois pour reprendre plus loin, comme ici, où le verset 14 reprend une phrase commencée au verset 1 de ce chapitre. Et de quoi est-ce que Paul nous a parlé depuis dimanche dernier? Eh bien, au chapitre 1, nous avons les trésors que nous avons en Christ. Au chapitre 2, les païens que nous sommes peuvent aussi passer de la mort à la vie. Au chapitre 2 encore, les juifs et les non-juifs sont réunis en Christ et forment une humanité nouvelle. Au chapitre 3, au début, eh bien, c'est le mystère du Christ reçu par révélation, l'Église, le corps du Christ, témoin de la grâce de Dieu devant les hommes et les puissances célestes. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Lorsque Jean-Claude Chablot a parlé ici, il y a environ un mois, c'était le dimanche du jeûne, il a parlé en particulier sur l'intercession. Il nous a dit que l'intercesseur est debout avec interdiction de s'asseoir. Et sur le moment, je me suis demandé si cela correspondait à ceci. Interdiction de s'asseoir, interdiction de dormir, sous peine de mort. Non, c'est certainement pas ça. Ça, c'est un cliché que j'ai pris à Verdun, dans les tranchées. Alors, en quoi est-ce qu'au fond, ce fait de rester debout, de s'agenouiller entre un conflit? Paul écrit depuis une prison où il séjourne à cause de l'Évangile, avec tout ce que cela signifie d'inconfort, d'incompréhension, de souffrance. Mais il ne s'afflige pas sur lui-même. Il regarde plus loin, par-dessus les murs de cette prison qui le tiennent captif. Et il voit loin, il voit très loin. Il a les yeux attachés au plan de Dieu envers les hommes. Et cela le pousse à se mettre à genoux dans sa prison. Dans le Nouveau Testament, il y a peu d'exemples de personnes qui se jettent à genoux. On voit Jésus à Gethsémani, Étienne quand on le lapide, et peut-être un ou deux exemples, mais ce n'est pas une attitude que l'on trouve très souvent. Et les Juifs prient debout. Vous les avez peut-être vus, qui se balancent comme ça, pour éviter de s'endormir, paraît-il. Donc nous avons ici un acte particulier, qui est tout à la fois un acte de soumission devant Dieu, d'adoration et sans doute d'intercession et de confiance devant le Père et pas seulement devant Dieu. Ce Père de qui toute famille tient son nom. Paul a déjà évoqué le nom du Père et la présence du Père au premier chapitre, les bénédictions qu'il nous donne. Et puis ensuite, au chapitre 2, cette famille réunit des juifs et des non-juifs dans le Père. Alors, on pourrait sans doute parler peut-être de toute famille, cette famille des croyants dont nous sommes ici un reflet. Nous faisons partie de cette famille-là. Dans les cieux et sur la terre, on pourrait peut-être évoquer les êtres humains, les anges, etc. Mais ce n'est pas dans le ton de la lettre. Il semble plutôt qu'il faille comprendre la famille triomphante, celle qui est dans les cieux, les chrétiens déjà morts, et la famille au combat, celle qui est sur terre. On voit que Paul n'envisage pas deux familles ou une famille disloquée, mais une seule et même famille qui transcende au fond toute la vie. Est-ce que ce n'est pas encourageant cela ? Et Paul, dans ses deuxièmes parties, vient au « donne ». « Donne-nous » ou « donne-moi ». Ici, c'est « donne-leur ». La demande de Paul n'est pas pour lui. Pourtant, est-ce qu'il n'aurait pas avantage à prier pour lui dans sa prison, pour son pain quotidien ? Alors non, ici, il prie pour quelque chose qui lui paraît plus important, les autres, ces chrétiens encore jeunes, jeunes dans la foi, qui ont besoin d'être encouragés, et fortifié. Pour moi, j'admire ce détachement de Paul. Comme Jésus, il a en vue le bien des autres, avant lui-même. Cette épître aux Éphésiens est sans doute une lettre circulaire, et nous sommes bien heureux que ce soit le cas. Car si elle avait été perdue, eh bien, toutes les richesses qu'elle contient nous auraient été enlevées. La demande de Paul se donne-nous aujourd'hui, est au fond une demande multiple, une sorte d'exhortation, un encouragement. C'est un peu un escalier sur lequel nous sommes invités à grimper. Cela pourrait faire penser aux marches du temple de Jérusalem, sur lesquelles il fallait monter, gravir, les marches à gravir, pour s'approcher du sanctuaire. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, ça, j'ai noté cinq démarches ou marches de croissance dans notre vie avec Dieu. Au verset 16, il est question de l'homme intérieur. Au verset 17, il est question de la foi, grandir dans la foi. Au verset 17 encore, grandir dans l'amour. aux versets 18 et 19, grandir dans l'amour de Christ, et finalement arriver à la plénitude en Dieu au verset 19. Nous avons une espèce de gradation dans le texte. On va examiner rapidement ces différentes marches. L'homme intérieur, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cet homme intérieur? C'est cette partie secrète, cachée de l'être humain, que Dieu a créée et qui demeure en nous. Le nouveau dictionnaire biblique écrit « C'est la partie de notre être immatériel capable de devenir la demeure du Saint-Esprit. » On trouverait peut-être ces définitions, quand même ce n'est pas directement des définitions, mais en tout cas ces caractéristiques dans la première épître de Pierre, l'être secret, le cœur. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 16, Paul parle de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Par comparaison, l'homme extérieur, qui est notre corps, qui se détruit. Mais pour le chrétien régénéré, cet être intérieur qui est si important, il s'ajuste au nouvel homme, celui qui a été créé lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais cet être intérieur n'est pas autosuffisant. Il a besoin d'être nourri, d'être fortifié, jour après jour, et cela par l'Esprit de Dieu. Toute cette épître insiste du reste fortement sur le rôle de l'Esprit pour nos vies, dans nos vies et par nos vies. La deuxième marche, la croissance dans la foi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Qu'est-ce à dire la foi? Il ne s'agit pas ici de la foi qui sauve, car Paul parle à des chrétiens nés de nouveau. Mais il s'agit de cette relation entretenue avec le Christ qui permet à notre Seigneur d'habiter nos vies, comme il habitait le tabernacle. C'est cette foi dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham partit, etc. C'est par la foi que Moïse n'a pas eu peur du Pharaon, etc. Et il y a toute une liste de ces témoins de la foi qui sont là pour nous encourager. Eh bien, nous sommes invités à croître à quelque part dans la foi au Seigneur, que le Seigneur puisse habiter dans notre cœur par la foi. Il est possible que nous ne ressentions rien de particulier. Parce que Paul parle ici de foi, c'est-à-dire la confiance dans la fidélité de Dieu, et il ne parle pas de mes sentiments, ce que je ressens. Et cela est très important. Cette troisième marche ou démarche, croissance dans l'amour, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être enraciné et fondé dans l'amour. Cette troisième marche, elle est bien connue, presque une rengaine, qui nous montre combien elle est difficile à pratiquer. Et là, je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Si le concept d'amour et d'aimer est souvent lié au sentiment, Paul présente ici autre chose. Il nous parle de stabilité et de constance. Et pour mieux le faire comprendre, il utilise deux images. Une relève de la botanique. Nous sommes invités à être enracinés dans l'amour comme un arbre qui est planté dans une terre ferme et nourricière. Et par ailleurs, nous sommes aussi invités à être ancrés dans l'amour comme un édifice qui est construit sur le roc. Et là, peut-être que les architectes savent de quoi on parle. À quelque part, amour n'est pas très loin de foi, le roc, la fidélité. La proposition suivante nous réserve quelques surprises. Au contraire des précédentes, qui s'adressaient plus à l'individu, ici nous sommes invités à vivre quelque chose ensemble, en commun. avec tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens dans leur ensemble, et plus encore les frères et les sœurs qui nous entourent, comme si ce quelque chose, on ne pouvait le comprendre que par la communion avec les autres, les uns avec les autres. Et je me suis dit qu'il y avait là un beau programme pour notre communauté, grandir ensemble. Mais grandir en quoi? Et c'est là que se présente une surprise dans le texte, parce que Paul, peut-être dans sa volubilité, dans son enthousiasme, il ne termine pas sa phrase. Paul ne désigne pas l'objet à comprendre. Est-ce le mystère dont il a parlé avant? Est-ce l'amour du Christ dont il va parler juste après? C'est ce que font certaines traductions qui ont tout de suite mis « comprendre l'amour du Christ avec tous les saints ». Ce qu'on ne l'a pas fait, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette traduction-là. Alors, cette phrase pas terminée, on va la comprendre en effet qu'il s'agit de l'amour de Christ, qui se présente comme une proposition en quatre dimensions, sachant bien sûr que cette physique spirituelle n'est pas la physique terrienne, parce que quand on parle de hauteur et de profondeur, on est dans le même plan de la verticalité. Peut-être que par rapport à Dieu, c'est autre chose. Alors, si nous parlons de l'amour du Christ, nous pouvons voir que cet amour du Christ, il est large. Il est si large qu'il englobe toute l'humanité, sans distinction de race, sans distinction de sexe, de nationalité, de toute autre particularité. Mais il est aussi très long, si long qu'il a commencé avant le temps et qu'il ne finira jamais. Et puis, il est très profond, si profond qu'il est descendu si bas pour arracher les êtres les plus indignes, mais si haut en même temps qu'il élève ces êtres plus haut que le ciel. Et c'est donc naturellement que nous arrivons au point suivant, qui est grandir dans la croissance de l'amour de Christ, connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance ou toute connaissance. Paul passe ainsi de notre amour, qui doit être enraciné et fondé, à l'amour de Christ que nous sommes appelés à pénétrer, à connaître. Chouraki traduit toujours connaissance par pénétration, connaissance intime et profonde, qui surpasse toute connaissance, tout ce qu'on peut imaginer ici-bas. Et là, je dois dire que j'ai un peu de peine à comprendre. C'est tellement grand que pour moi, arriver au plus grand du plus grand, je me sens vraiment très petit pour cela. Mais une chose est sûre, c'est tellement grand qu'il faudra sans doute l'éternité pour le sonder. A priori, au ciel, nous ne nous ennuierons pas. Mais plus platement, c'est la connaissance de cet amour hors du commun qui a poussé Paul à accepter prison et souffrance. C'est ce qu'il écrivait aux Éphésiens, aux Philippiens. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et pour Paul, cette perte, ce n'était pas simplement une notion comme ça en l'air, simplement intellectuelle. Aujourd'hui encore, Paul, dans les milieux juifs, il est totalement honni, on ne le reconnaît pas. C'est un être à la limite qui n'a pas existé. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Au verset 10, il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et cela nous amène encore un peu plus loin. La croissance ultime, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne savais pas très bien quel titre il fallait donner ici à ce stade, et je l'ai nommé la croissance ultime. Une autre traduction dit ceci, « Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. » Question, qu'est-ce que la plénitude? Eh bien, c'est l'état de quelque chose qui est au maximum de ses caractéristiques, qui a toute son intensité, sa densité, sa richesse. Et ce thème revient plusieurs fois dans les Éphésiens et les Colossiens. Imaginez être rempli à ras-bord entièrement et complètement par Dieu lui-même. La pleine et complète réalisation de cela s'est sans doute réservée à notre état final, quand Christ sera tout en tous. Mais en attendant, nous pouvons accepter ce défi de tendre déjà vers cet état. Paul écrivait, « Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Donc tout n'est pas absolument pour le futur, il y a déjà un petit bout qui nous est réservé ici-bas. Et avec cela, nous sommes arrivés au haut de cet escalier, qui nous donne un peu le vertige, à moi en tout cas. Pour moi, j'ai l'impression d'être encore au départ, à la première marche. Et je trouve que cela pourrait être décourageant s'il n'y avait pas encore comme ce petit sucre, cette cerise sur le gâteau. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce texte, John Stott, dans son étude sur les Éphésiens, le développe ainsi. Dieu peut faire, peut agir, parce que Dieu n'est pas paresseux, il n'est pas oisif et Dieu n'est pas mort. Dieu peut faire ce que nous demandons. Il entend, il exauce les prières qui sont selon sa volonté. Dieu peut faire ce que nous demandons ou pensons ou imaginons, car il lit nos pensées. Dieu peut faire tout ce que nous demandons ou pensons. Il sait tout et il peut tout. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ses ambitions pour nous sont certainement plus élevées que les nôtres. Dieu peut faire bien au-delà, nous avons un superlatif. Il ne répond pas à sa grâce chichement. Et Dieu peut faire infiniment au-delà. Un super superlatif. Et le commentaire que j'ai lu dit, c'est un terme inventé par Paul. La puissance de Dieu est sans limite. Alors, frères et sœurs, osons imaginer, osons penser, osons demander à Dieu que son esprit nous aide à gravir l'escalier qui nous conduit jusqu'à lui. Et c'est naturellement que Paul, dans sa prière, on vient à louer Dieu, à rendre gloire à Dieu, dans toutes les générations, aussi la nôtre, et à tout jamais. Et moi j'ajoute, merci au Dieu. Que le Seigneur soit avec vous.